Eh bien, bonsoir à nouveau à chacun d'entre vous ici présent. C'est une joie réciproque, mutuelle, que de pouvoir partager la parole de notre Dieu sur un thème de Pâques, un thème extraordinaire que j'ai osé intituler dans la série que nous faisons « Pâques, prémices de l'éternité ». Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'aimerais redonner les subdivisions de ce thème, car je prendrai la parole 5 fois. En fait, je l'ai déjà prise 1 fois. J'en suis à la seconde. Et ce matin, le titre était « La création, une perspective sur l'éternité ». Et nous avons vu dans cette perspective, je le rappelle en quelques minutes, pour ceux qui n'étaient pas là, et cela me permet de faire la jonction avec ce qui suit, ce qui est toujours important, il faut voir une continuité. Ce matin, nous avons découvert la perspective divine sur la création. La création n'est pas quelque chose qui arrive parfait et qui, par accident et grande déception de Dieu, tombe dans le péché parce que l'homme a fait le mauvais choix et que Dieu, dans sa miséricorde, pense vite à une solution de fortune et soudain trouve que Jésus-Christ, eh bien, incarné, crucifié et ressuscité, c'est la solution. Ce n'est pas du tout la perspective divine. Et j'ai déploré fortement ce matin qu'après des siècles de christianisme, tout au moins dans le monde occidental, on était arrivé à des vues étriquées, misérables, de quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Car Dieu, lorsqu'il lance la création dans l'histoire, dans le temps et l'espace, il a pour but, et un seul but, de tout amener à la perfection. La perfection, c'est pour la fin des temps. Tout démarre sur une note d'ébauche, comme tout artiste qui travaille part d'une pâte rugueuse, molle ou dure, peu importe le genre de travail qu'il fait, et petit à petit parachève. Nous avons vu que la création jusqu'à l'homme, c'est-à-dire l'homme non compris, représentait la partie matérielle de son ouvrage, et que l'homme allait être à la charnière de ce qui est matériel et spirituel. Il a un pas dans le temporel et un pas dans l'éternel. Dieu met en lui la pensée de l'éternité parce que par suite, il va parachever sa création en amenant la possibilité enfin à l'homme de devenir un être spirituel à part entière. Cela n'est possible que dans le cadre du deuxième Adam par la croix et la résurrection. Et ainsi, nous avons découvert que la croix avait une place centrale dans le dessein divin. La croix n'a jamais, ne sera jamais un palliatif. La croix est au centre du plan divin, car la seule façon, et c'est la sagesse divine, mystère pour nous pour le moment, mais un jour nous la découvrirons face à face, la sagesse divine a voulu que la vie arrive, non pas précédant, mais suivant la mort. Toute la nature est bâtie sur ce thème d'une mort qui précède la vie. Nous l'avons vu au niveau du grain de blé. Nous aurions pu mentionner le corps humain. Savez-vous que chaque jour, des milliers de cellules meurent en vous et laissent la place à d'autres cellules qui deviennent vivantes que parce que les précédentes sont mortes? Tout dans la nature rappelle que nous devons passer par une mort pour entrer dans une vie véritable. Voilà la perspective divine. Et nous avons également découvert que Dieu, à ce moment-là, lorsqu'il fait entrer l'histoire de la création dans sa 7e et dernière phase, la 7e ère, ou 7e jour, pour reprendre le vocabulaire biblique, qui n'a rien à voir avec un jour solaire, je vous ferai remarquer, cette 7e ère sera caractérisée par le repos divin. Et nous avons débusqué la fausse notion de repos qui consiste à croire que Dieu se repose, les pieds sur la table, en attendant que les choses se passent. Le repos divin, c'est une activité extraordinaire. Mais il ne crée plus au sens matériel dans cette 7e ère. Le repos divin, c'est toute la création spirituelle de l'homme qui va commencer. Elle s'incarnera en Jésus-Christ qui nous précédera dans une mort pour ressusciter, et en ce faisant, et c'est le thème de Pâques, il entraînera la possibilité pour de nombreuses âmes de trouver cette vie nouvelle et de découvrir enfin notre véritable dimension. Les civilisations commencent le cours de l'histoire. Elles se jettent avec une énergie effrénée dans le temps, dans l'étude d'elles-mêmes. Et petit à petit, le progrès amène l'homme sur un piédestal. L'homme découvre qu'il a le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de découvrir, de transformer. Nous arrivons, après les sombres heures du Moyen-Âge, à l'éclatement de la Renaissance, suivi par l'arrivée du monde technologique que nous connaissons. Mais ce que nous avons vu, c'est quelle que soit la brillance de notre civilisation, si l'homme n'est pas régénéré, si l'homme ne reçoit pas une dimension spirituelle permanente, il n'est que l'ombre de lui-même et toute son aventure est vouée à l'échec tôt ou tard. Voilà le drame de la chute, voilà le drame de l'homme tel qu'il apparaît au début de la création, seulement une âme vivante, mais pas un esprit vivifiant encore. Et une âme vivante se manifeste par l'intelligence, par toutes sortes de créativités, de capacités de toutes sortes, mais qui, à long terme, débouche dans le néant, car l'homme n'est pas fait pour vivre sur ce diapason-là, il est fait pour beaucoup plus. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est de le réveiller spirituellement au niveau d'une mort, la mort de la croix, et d'une résurrection en Christ, et ainsi, Dieu pourra amener toute la création derrière l'homme régénéré à la perfection qui est le but de la création. Donc tout est en création permanente. La création ne s'est pas arrêtée. La partie matérielle s'est arrêtée à la fin de la sixième ère, le spirituel a pris le relais. Et Dieu est actif par son esprit, par Israël pour commencer, pour montrer à quel point la loi est impuissante à changer l'homme. Plus tard, l'homme émergera au niveau d'une autre forme de loi, la loi scientifique, qui est bien plus que la loi religieuse pour certains, tout au moins dans nos contemporains, c'est ce qu'on pense. Et cette loi scientifique arrive au même butoir. Car déjà la sagesse grecque nous invitait, nous interpellait et nous disait « Tu sais pourquoi tu connais ? Eh bien Dieu t'a donné la faculté de connaître pour que tu connaisses que tu ne connais rien. » Voilà le but de la connaissance. La loi a été donnée pour montrer qu'elle ne pouvait pas changer l'homme. La connaissance scientifique de l'univers, artistique, philosophique, et j'en passe, ne peut amener l'homme à sa véritable dimension, qui est la dimension spirituelle. Il faudra qu'il meure, et Christ ouvrira la voie, pour entrer dans un autre diapason de vie, la spiritualisation de l'homme, de l'humanité, voilà le but divin, et ainsi seulement l'homme pourra entrer dans une véritable connaissance, une connaissance qui signifie s'intégrer à connaître, suivant ce vieil adage oriental, connaître c'est être connu de. Connaître Dieu, c'est d'abord être connu de Dieu. Or Dieu ne veut pas nous connaître dans notre contexte humain, charnel, périssable, temporel. Car il a réservé beaucoup plus pour nous et il ne nous connaît que lorsque nous nous laissons régénérer par l'œuvre de la croix dans nos vies. À ce moment-là, nous entrons dans la vraie connaissance et tout peut changer sur la surface de la terre. Ce monde qui court à la catastrophe peut voir le cours de l'histoire se renverser. Et je crois que nous atteindrons à un moment de notre histoire une période où nous le verrons, ce que j'appelle le millénium. Mais nous n'en sommes pas là. Tout cela, c'est un résumé de ce que nous avions découvert ce matin. Et nous allons entrer un peu plus loin dans cette faculté de régénération mise à disposition de l'homme au niveau du plus grand événement de toute l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus. Et le thème d'aujourd'hui, de ce soir, est le suivant, la croix, une guérison éternelle. Avant d'entrer dans le thème, je rappelle les thèmes suivants. Demain à 14h30, puisque c'est entre le calvaire et la résurrection, le samedi saint, le thème sera le silence d'une pause avant l'éternité. Dimanche à 20h, nous verrons Pâques, un commencement éternel, et enfin lundi à 10h, un vécu quotidien digne de l'éternité, c'est-à-dire tout ce que ça implique comme responsabilité d'être régénéré. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de la croix, on pourrait en parler pendant des heures, des jours, des semaines, et j'aimerais tout particulièrement, en quelque sorte, amener notre projecteur ce soir sur cet aspect de la guérison. Et quand je titule cela une guérison éternelle, je vais beaucoup plus loin que nos concepts cliniques et pathologiques de guérison. Trop souvent, nous avons réduit l'œuvre de la croix à une guérison possible seulement au niveau des corps. Or, le mot hébreu « rapha » pour guérison va beaucoup plus loin. Et nous allons donner comme toile de fond à notre étude ce soir cette parole célèbre du prophète Ésaïe. Je n'ai presque pas besoin de vous donner le passage, mais je le donne quand même. Ésaïe 53,5, fin du verset 5, où il est dit « Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. » Alors, nous avons lu ce texte maintes et maintes fois. Certains membres de la vaste famille chrétienne, du côté des mouvements de réveil, de Pentecôte et autres, ont pris à la lettre ce verset et en ont conclu que c'est à cause des blessures du Seigneur. Vous savez, il en avait au front à cause de la couronne d'épines. Sur le dos, il a été battu extrêmement fort. Il avait ses trous dans les poignets et dans les chevilles à cause des clous, etc., etc. À cause de ces blessures physiques, eh bien, nous allons pouvoir recevoir la guérison de nos maladies. Des maladies de notre corps, que ce soit les petits bobos ou les grandes maladies comme le cancer, la dépression et autres. Eh bien, si l'on a vu Ésaïe 53,5 sous cette perspective, excusez-moi, mais c'est très très réduit, réducteur, réductionnel, peu importe le mot que vous utilisez, ce n'est pas du tout ça. Et j'aimerais vous redonner cette fin du chapitre du verset 5 d'Ésaïe 53 en étalant l'éventail. Vous avez vu déjà un éventail? Un éventail n'a aucun sens lorsqu'il est replié. Et j'ai l'impression que les traducteurs littéraux de ce mot ont gardé un éventail fermé. L'hébreu est une langue extrêmement riche. Il faut ouvrir l'éventail. Chaque mot est un éventail. Et regarder la perspective qui s'offre, la toile de fond qui apparaît, l'éventail ouvert, à travers ces mots. Et voici ce que ça donne. C'est parce que son cœur a été transpercé de chagrin, qu'en ce qui nous concerne, tout a été remis en mouvement. Ouais, on est loin de notre traduction littérale. Je répète, c'est parce que son cœur, le cœur du Christ, a été transpercé de chagrin, qu'en ce qui nous concerne, tout a été remis en mouvement. Eh bien, ce sera le thème de ce soir. Pour comprendre, et quand je dis le mot comprendre, je tremble. Je tremble parce que je parle pour la plupart de mes causeries dans des assemblées du type civilisation occidentale où la puissance cérébrale a été portée au nu. Et lorsque je dis le mot comprendre la parole, je tremble. Car j'ai bien peur que nous tombions tous dans le même piège de cérébraliser, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ici la parole avant qu'elle devienne nôtre. Mais la parole n'a jamais été écrite avec comme préalable la compréhension intellectuelle. Certes, l'intellect participe à la connaissance, mais jamais en premier plan. Comprendre la parole, c'est autre chose. Le mot grec pour parole, logos, qui a été à tort traduit dans nos civilisations occidentales, via le latin, par oratio. Oratio, c'est parole, j'écoute. Une parole, je discerne, je découpe, j'étudie ceci, cela, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que la parole s'étudie. Logos fait appel à une notion beaucoup plus profonde. une notion d'intégration, d'entrée dans. C'est déjà la connaissance. Je ne connais la parole que dans la mesure où j'entre dans la parole et elle en moi. Ça veut dire que la parole, c'est beaucoup plus que des lettres, qu'un livre avec une couverture, des pages, des caractères d'imprimerie. La parole, c'est Christ. La parole fait chair. C'est dans la mesure où j'entre dans la réalité divine manifestée en Christ et qu'elle entre en moi que la parole se fait mienne et je commence à la saisir. Et ensuite, mon intellect se met en route et mon corps pour l'appliquer, etc. Mais pas dans l'ordre inverse. Donc quand je dis ce soir, nous allons essayer de comprendre ce qu'Ésaïe a voulu nous dire à travers la fin de ce verset, je vous invite, tout en écoutant, à entrer sur un autre plan. Le Seigneur est présent ce soir parmi nous. Il n'est pas là comme spectateur, à compter les points, à vous regarder, tiens, il y en a qui dorment, oh, il y en a qui sont comme si, qui ont tel visage. Il est là pour participer avec nous. Il est là pour que nous entrions dans sa présence et sa présence en nous. Pour que, écoutant d'une oreille, nous laissions la méditation de notre cœur, mise au diapason de sa présence, nous interpénétrer et réveiller dans la profondeur de notre être des échos profonds qui souvent agissent comme des flashs. J'ai connu des personnes à peine cultivées, savaient à peine lire et écrire, recevoir ces échos profonds de la parole, alors qu'intellectuellement ils n'étaient même pas qualifiés pour comprendre un verset, recevoir l'écho de la parole et le vivre sur une intensité extraordinaire. Ça, c'est comprendre la parole. Ça, c'est recevoir la parole. Parce qu'elle est vivante, c'est la personne même de Christ. Alors, nous allons, dans cette perspective, entrer dans l'étude de ce texte et j'aimerais tout de suite rappeler quelque chose que j'ai peut-être passé un peu rapidement ce matin et peut-être pas du tout dans le rappel de tout à l'heure, le rôle essentiel, central de la croix. La croix sera l'ouverture divine sur l'aventure humaine. L'ouverture de façon à ce que la dernière étape, avant que l'homme puisse devenir un être spirituel, soit accomplie. Jésus est au centre de la croix. Jésus est non seulement fils de Dieu, mais lorsqu'il s'incarne, il est aussi fils de l'homme. Il est dans cette dualité d'une humanité qui est aussi appelée à disparaître. Elle est soumise aux lois de ce qu'on dit en science l'entropie, c'est-à-dire à chaque fois que Jésus respirait tout comme nous, il brûlait. Son corps n'était pas plus éternel que le nôtre en tant que biologie. Et à la fois, il est le Fils de Dieu, il a une communion extraordinaire avec son Père, et il vit ce déchirement. En effet, cette humanité qu'il découvre au moment de la naissance, lorsqu'il entre dans le monde au niveau du Fils de l'homme, cette humanité subit tout le poids de la chute. C'est-à-dire, un être humain, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là ce matin, ce premier Adam, incapable de faire un choix correct, à qui Dieu a dit simplement, tu ne feras pas ci, tu ne toucheras pas cela, c'est à des enfants que l'on parle comme ça. Le premier homme n'était pas du tout mûr pour assumer la pleine dimension d'être humain. Il n'était qu'une âme vivante. Et il entraîne toutes les générations qui vont suivre dans la chute. Le péché entre par un seul homme et marque toutes les générations humaines. Le péché, entre parenthèses, veut dire « à côté de la cible » en hébreu. Ça veut dire que l'homme n'est plus conforme quant à ses intentions, quant à ce qu'il veut faire, n'est plus conforme au plan divin. Nous l'avons découvert ce matin. Bon, ça veut dire conforme au plan divin. Il fait des choses suivant une idée qu'il a de lui-même et qui plus est, au moment où il va découvrir les grandes religions de ce monde, au niveau de son idée de Dieu. Car le drame d'une religion vécue en tant que fin en soi, que ce soit les religions orientales ou nos grandes religions historiques au niveau du christianisme, si l'homme regarde la religion comme une fin en soi, il ne peut avoir qu'une idée de Dieu. Aussi bonne soit-elle, aussi polie, raffinée soit-elle, à travers le processus théologique. Mais ce n'est qu'une idée de Dieu, et tôt ou tard, l'homme évacue cette idée. Lorsqu'un incroyant me dit « je ne crois pas en Dieu », il ne sait même pas de quoi il parle. Parce que pour dire « je ne crois pas en Dieu », il faut l'avoir connu. Quand il dit « je ne crois pas en Dieu », il dit « je ne crois pas en une certaine idée de Dieu que j'avais et que je suis obligé d'évacuer ». Et en ce faisant, il a raison. Mais il ne faut pas laisser le vide. Il faut revenir non pas à une idée de Dieu, mais à une présence, une communion avec le vrai Dieu. Et à ce moment-là, la connaissance commence. Eh bien, l'homme, dans la période qui va suivre un refus d'obéir au divin, lorsqu'il veut devenir l'égal de Dieu, suivant les spécifications de Satan et non plus celles de Dieu. Hein, si tu m'écoutes, hein, tu verras, tu seras comme un Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Cet homme ne se rend pas compte qu'il a été dupe. Car la connaissance du bien et du mal, rappelez-vous, est symbolisée par ce fruit. Il n'est jamais dit qu'il y a le fruit de la connaissance du bien et le fruit de la connaissance du mal. Non, c'est le même fruit. Et lorsqu'il mange ce fruit, lorsqu'il intègre ce fruit, c'est déjà une connaissance, il fait sien le fruit, et le fruit devient sien, eh bien, en ce faisant, il connaît et le bien et le mal sans pouvoir les discerner. Et comme le mal, par suite de la désobéissance de l'homme, est plus fort que le bien, Satan s'appuie de tout son poids sur la déchéance humaine, le mal entraîne l'homme, et qui plus est, lui donne l'impression qu'il est toujours dans le bien. Regardez la moralité des temps modernes. Le bien, c'est ce qui fait jouir. C'est ce qui me donne une jouissance dans la vie, à tous les niveaux possibles. Et le mal, c'est tout ce qui se met en travers. Voilà dans quel mensonge l'homme est entraîné de nos jours. Eh bien, ça amène des conséquences qui sont inéluctables et hautement destructrices. Des civilisations entières disparaissent. Et lorsque Christ entre dans notre condition, il découvre toutes ces misères. Il découvre ces misères, non seulement parce qu'il les connaît, mais parce qu'il entre de plein pied dedans. Il connaît ce qu'a amené, par exemple, la pratique d'une religion qui, au départ, se voulait droite devant Dieu et qui, de la même façon, n'était que le reflet de l'homme dans son idée de Dieu, au point que la religion juive, en ce temps-là, avait acquis un formalisme, une rigidité, une hypocrisie, comme jamais de son histoire. Et comme résultat, il y a tout un asservissement. Des âmes naissent, innocentes comme l'enfant qui vient de naître, arrivent dans le monde, sont entraînées par ces puissances d'oppression, ne savent plus où elles vont et disparaissent. Et Jésus voit tout le défi que Satan lui adresse, en lui disant, « Ah, vous, la Trinité divine, vous voulez amener tout à la perfection? Eh bien, moi, je me fais fort de détruire l'humanité avant que ça n'arrive. » Voilà la stratégie satanique. Le Christ ressent tout cela. Et il commence par annoncer, par rappeler en fait, car cela a été toujours annoncé. Il faut relire tout ce que Dieu a révélé à Moïse, au peuple d'Israël, par les prophètes, les rois. Il rappelle à l'homme que l'homme est promu pour quelque chose de bien supérieur. Qu'il est promu pour vivre sur un niveau où il connaît sa pleine dimension. C'est cela le royaume de Dieu. C'est déjà l'anticipation de l'éternité. C'est-à-dire au niveau de l'aventure quotidienne. C'est la possibilité dans cette dualité de la joie, de la souffrance, du bien, du mal, la lumière, de l'obscurité, d'être capable, enfin, de pouvoir discerner la différence entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, ce n'est pas forcément tuer et ne pas tuer son voisin. Ça, c'est une conséquence lointaine. Le premier mal, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas conforme au plan divin. Mais pour pouvoir faire ce qui est conforme au plan divin, faut-il encore le connaître? Et le connaître, ce n'est pas cérébralement que je le connais. C'est dans une intégration, une entrée dans la réalité divine. Donc tout appelle à quoi? À une mort. Car l'homme, n'étant pas viable comme il est, doit mourir. Sur ce plan profond, le physique suivra. Mais tout commence par au niveau psychique, au niveau de ses aspirations. Tout cela doit être rejeté pour un temps, afin qu'il naisse à une vie nouvelle. Et ensuite, toutes ces dons, ces facultés qu'il a mises en l'homme, vibreront enfin au diapason correct de ce qui est conforme au plan divin. Voilà ce que Christ rappelle. Et pour, en quelque sorte, souligner, donner plus d'intensité à son enseignement, il accompagne son ministère de signes. C'est-à-dire, comme l'homme est bloqué dans un mouvement qui n'en est plus un, c'est une anarchie, tout part à la dérive, les civilisations se suivent, disparaissent, implosent, elles ne sont pas détruites par des invasions, les civilisations. Elles sont toujours détruites par l'intérieur, par la corruption. Relisez le premier chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Vous verrez, c'est toujours l'homme qui arrive à l'orgueil de sa propre connaissance et qui amène la corruption sur un degré absolument destructeur. Christ voit tout cela. Christ réalise tout cela et il accompagne son ministère par des signes d'un renouveau. En d'autres termes, ce mouvement arrêté, ce mouvement de la création vers lequel, dans lequel on pouvait arriver à la perfection, s'est dévié. Ce que Christ rappelle au niveau d'une guérison, c'est beaucoup plus que simplement un mal physique qui s'en va. C'est par ce mal, il rappelle que l'homme est appelé à une guérison totale. Et nous voici en plein dans le vif du sujet. Et j'aimerais déjà vous donner une image de l'enseignement réel de Christ au travers de certaines de ses paroles. J'aimerais lire avec vous, par exemple, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, verset 18. Luc, chapitre 4, simplement le verset 18 et 19. Écoutez Jésus qui parle. Il vient de faire apparition dans le monde de sa civilisation d'antan, à Nazareth. Il ouvre le livre de la loi et il rappelle tout simplement ce qu'Ésaïe avait écrit au chapitre 61, ses paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ceux qui l'écoutaient étaient comme nous ce soir, en train de pondérer ces paroles, méditer, et tout de suite s'offre à notre entendement une première idée. Par exemple, lorsqu'il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., on voit tout de suite les gens qui ont du chagrin, les pauvres, ceux qui n'ont rien. Il y a toujours les riches qui ont tout et les pauvres qui n'ont rien. Et quand un riche s'enrichit, c'est toujours au détriment des pauvres. Voilà l'image qui s'offre à nous. Les captifs, la délivrance, oui, peut-être, oui, c'est vrai, il y a des camps de prisonniers, il y a l'oppression politique, il y a toutes sortes d'organisations dans le monde aujourd'hui qui luttent pour dénoncer des gens qui passent 20 ans, 30 ans, oubliés du monde dans des camps de prisonniers. On réfléchit à tout cela. Et voyez comment l'évangile social commence à germer, si on ne prend pas garde. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la médecine fait beaucoup de choses, au point de vue de guérir la cécité, mais peut-être que certains ont besoin d'une guérison miraculeuse. Voilà, voilà. Pour envoyer libres les opprimés. Les voilà, peut-être les goulags vont s'ouvrir. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et si l'on n'y prend pas garde, on entre dans cet évangile social que Dieu vomit. Jamais le christianisme n'a été appelé, nous le disions ce matin, pour ceux qui vivent dans le monde, mais qui oublient qu'ils ne sont pas du monde. Petit à petit, il se range au diapason des fronts de libération nationaux, de ces fronts révolutionnaires, et on les découvre. Le Conseil œcuménique des Églises versant de l'argent à des gens qui tuent des missionnaires en Afrique, par exemple. Voilà à quel paradoxe on arrive. Ce n'est pas du tout cela, l'évangile que Christ proclame, car il faut aller au-delà. En effet, une bonne nouvelle aux pauvres. Quels sont les réels pauvres? Ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas du tout d'argent dans leur poche. Souvent, ils sont plus riches que ceux qui ont des milliards. Le pauvre réel, c'est celui qui réalise à quel point, dans sa condition humaine telle qu'elle est, il ne vaut rien. Oh, nous vivons dans un siècle où on vous dit le contraire. Les psys du monde, psychanalyse, psychothérapie et autres, se liguent pour vous dire, vous, êtres humains, moi compris, vous valez quelque chose, on va restaurer votre image. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et même si l'Évangile vous dit que vous ne valez rien, que c'est seulement aux yeux de Dieu que vous avez une valeur complète, non, 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 découvrez, vous allez voir. Votre valeur est certaine. On va vous aider, on va explorer votre passé d'abord. Et puis on va montrer que dans le passé, vous avez montré des talents déjà. On va mettre tout ça en avant. Ça n'a rien à voir. Car ce qu'ils essayent de mettre en avant, de restaurer, est du domaine du temporel, donc du périssable. La vraie valeur de l'homme, c'est dans ce qui est éternel en l'homme. Et lorsque ceci est redécouvert, à ce moment-là, ce qui est temporel prend sa vraie valeur. Voilà ce qu'annonce l'Évangile. Donc la vraie pauvreté, c'est découvrir à quel point, autant riche que je sois, autant intelligent que je sois, je ne suis que rien. Je suis une misère. Tant que je n'ai pas découvert la communion avec Dieu dans une régénération authentique, dans une vie nouvelle en Christ, j'ai beau avoir toute la fortune du monde, toute la puissance politique du monde, même le pouvoir de faire des miracles, si je n'ai pas cette réalité divine en moi, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Je ne suis rien. Ça, c'est la pauvreté. Eh bien, c'est à cela que la bonne nouvelle est annoncée, et non pas aux autres. Pas forcément aux pauvres matériels, ceux qui n'ont pas d'argent, mais les vrais pauvres. Et ainsi, Jésus continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Car de réaliser ma pauvreté réelle finit par me briser. Avons-nous connu ce brisement? De réaliser que même à travers notre bonne religion, notre fidélité au culte, notre fidélité aux études bibliques, ce que nous faisions dans notre église, qu'en fait nous étions pauvres. Nous étions pauvres parce que nous faisions quelque chose pour le Seigneur, alors que nous avons été créés pour que lui fasse quelque chose pour sa gloire à travers nous et avec nous, ce qui est totalement différent. Alors, on se croit riche et on est pauvre. Rappelons-nous ces lettres que l'Esprit enverra aux églises dans l'Apocalypse. Tu te crois riche, mais tu n'es que pauvre. Eh bien, de découvrir sa vraie pauvreté, d'un seul coup, quelquefois, nous brise complètement. Eh bien, c'est à cela que Jésus dit, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez déjà, la guérison entre. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin. C'est raccommoder l'être humain. Non pas au niveau d'une psychothérapie, mais au niveau d'une guérison authentique qui couvre le passé, le présent et l'avenir. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ça va beaucoup plus loin que les gens qui sont prisonniers politiques. Le captif, n'est-ce pas celui qui est prisonnier de sa propre image, de l'image qu'il veut projeter, de son moi, son ego? Moi, je veux être ceci. Moi, je veux être le chrétien que l'on voit dans les églises parce qu'il sait faire quelque chose pour le Seigneur. Moi, je veux être celui qui, par ses talents, change les choses. Moi, je. Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Le Seigneur devient notre serviteur, alors que nous avons été créés pour être ses serviteurs à lui. Eh bien, nous sommes captifs d'une image de nous-mêmes qui, finalement, nous abaisse et nous abaisse et nous abaisse. Eh bien, tôt ou tard, grâce à l'Esprit divin, d'un seul coup, la lumière est projetée. Je réalise le degré de ma captivité, je crie au Seigneur. Et le Seigneur répond, je suis envoyé pour te proclamer la délivrance. Voilà l'évangile révolutionnaire de Jésus. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. L'aveugle, n'est-ce pas celui qui croit voir à la lumière de sa connaissance, qui n'est qu'obscurité? Regardez l'aveuglement du monde d'aujourd'hui. Il croit découvrir enfin que le monde qui l'entoure s'explique. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait trop rien. S'explique scientifiquement. Je suis moi-même à la pointe de la recherche scientifique. Je travaille dans un domaine qui est un peu un domaine presque de science-fiction, nous sommes en train de faire le projet d'une pile atomique de l'espace qui décollera avec Ariane 5, le programme européen, en 1996. Donc c'est de la science-fiction. L'homme déploie, et je rends gloire à Dieu pour cela, un éventail de connaissances et de capacités extraordinaires quant à sa maîtrise des lois naturelles. Mais dans quel but le fait-il? Il croit tout savoir, il croit qu'il va amener le bien-être matériel. Il est persuadé que pour résoudre les problèmes de l'inflation, du chômage, de la pauvreté dans le monde, de la violence, il lui faudra de l'intelligence, de la raison, comme je déplore ce que j'ai entendu du cardinal de Paris, représentant du christianisme, dire pour résoudre le problème de la violence, il faut utiliser ce que l'intelligence nous offre de plus beau, la raison, avec un R majuscule. Un chrétien dire cela, c'est une honte. Parce que si nous sommes dans un monde de violence, c'est parce que la raison est pervertie. La raison a servi à glorifier l'homme au lieu de glorifier Dieu. Et le résultat, c'est la corruption de toute une civilisation et la destruction par la violence. Et l'on veut plus de raison pour résoudre ces problèmes. Quel aveuglement! Eh bien, le jour où des aveugles comme cela se rendent compte qu'ils sont aveugles, eh bien, cette parole est pour eux. Je suis venu pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ces gens qui se croyaient libres et qui étaient prisonniers de leur image, de leur civilisation, de leur culture, de leur vue du monde, pour publier enfin une année de grâce du Seigneur. Voilà le vrai évangile. Voilà ce que Jésus annonce. C'est tout cela, la remise en mouvement. Une remise en mouvement de notre histoire. Car notre histoire s'est perdue dans les sables, dans le brouillard de la fausse connaissance. De la connaissance qui, pourtant, nous était donnée par Dieu, mais que l'homme a utilisée pour sa propre gloire. Pour remettre en mouvement notre histoire, il faut d'abord proclamer le véritable évangile. Celui que nous venons de découvrir en quelques minutes. Et que Jésus va accompagner de signes. Il ne sera pas le seul à guérir. Par la suite, lorsque l'Église naîtra, lorsque Christ aura évacué de sa présence physique cette terre, l'Église a une mission précise. Ce n'est pas celle de faire de miracles, comme on le croit. C'est de dévoiler aux puissances célestes qu'elles ont été vaincues sur la croix, que maintenant leur domination sur le monde est terminée, une fois pour toutes. Et si l'Église se rend compte de la vraie dimension de sa mission, à ce moment-là, c'est l'enfer qui recule. Ce n'est plus la raison qui fait reculer la violence, mais c'est la démonstration de la puissance de la croix, la seule arme pour faire reculer la violence, car la violence est l'arme de Satan. Eh bien, quand l'Église commence son histoire, elle commence son ministère juste de la même façon. Et vous connaissez tous cette image, en fait, cet événement qui s'est produit à l'entrée du temple, du paralytique qui était là, et qui voit passer, d'ailleurs, on va le revoir, je vous invite à ouvrir, dans Actes, au chapitre 3. Vous allez le garder, je ne vais pas lire toute l'histoire. C'est Pierre et Jean qui montent au temple, vous la connaissez. Et ils voient ce paralytique qui s'attend à recevoir de l'argent. Et Pierre et Jean leur déclarent, « Non, regarde-nous, nous n'avons rien, ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Eh bien, cela me rappelle, cette guérison du paralytique, cela me rappelle que lorsque je lis le livre des Actes, la majeure partie des guérisons ont référence à des paralytiques, des gens qui étaient immobilisés pendant des années, des dizaines d'années. Et cela me rappelle une autre histoire, et je reviens un peu en arrière dans le Nouveau Testament, à ce paralytique que des amis fidèles avaient amené auprès de Jésus, ils ne pouvaient entrer. C'était plein comme ce soir, peut-être plus encore. Ils ont dû défaire le toit. et le paralytique est descendu. Ce récit, pour ceux qui voudraient en avoir une mémorisation de texte, est dans Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Et on le descend. Et, d'ailleurs, je vais ouvrir le texte pour me référer exactement aux paroles. Il descend, il arrive, tout le monde s'attend à voir sa guérison. Et Jésus, au lieu de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche », lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Alors, je vois tout de suite ce qui se passe dans la tête des pharisiens. Comment est-ce qu'il a la puissance de pardonner ? Et puis d'autres se disent « Voyez, j'avais raison, cet homme est malade parce qu'il a péché ». Et combien ne sommes-nous pas pareils à ces gens de l'époque qui voulaient fidèlement suivre leur religion et qui étaient tombés dans le travers de juger, c'est-à-dire de croire que toute maladie provenait du péché. Non, il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et d'ailleurs, à une autre occasion, rappelez l'aveugle de naissance, les disciples disent immédiatement « Mais c'est son péché à lui ou de ses parents dont il est en quelque sorte le malheureux personnage qui emporte les conséquences ?» Il dit « Non, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, réaction dans l'auditoire religieux, qui est-il celui qui profère ses blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et Jésus voit leurs pensées et leur pose cette question extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez médité cette question. Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». C'est une question fondamentale qui montre qu'en fait, ce mouvement, non seulement de l'histoire, mais de l'humanité, qui doit tout amener à la perfection, est bloqué. Et ça peut être aussi bien le péché, la maladie, l'un peut être la conséquence de l'autre ou la cause de l'autre, peu importe. Ça fait un tout. Tout est bloqué parce que l'homme s'est écarté du plan divin, délibérément, par manque de connaissance aussi, mais il s'est écarté, il a obéi à une autre voie que celle de son maître et il en porte les conséquences. Cet homme-là n'avait pas spécifiquement péché, qui aurait introduit cette paralysie, mais il était pécheur comme l'humanité entière. Quant à ce mouvement, il était bloqué. Et ce blocage se traduisait sur un niveau physique, sans forcément qu'il y ait relation de cause à effet, se traduisait sur le niveau physique par une paralysie. Et Jésus guérira ce paralytique et en même temps lui pardonnera les péchés. Il remettra en mouvement non seulement l'homme lui-même, mais il montrera que le fait de faire les choses non conformes au plan divin constitue une puissance qui nous maintient en dehors du plan divin et qui empêche ce mouvement vers la perfection. Donc, le message de la bonne nouvelle, celle que nous avons vue à travers son rappel du prophète Ésaïe, ce sera de rappeler à l'homme qu'il est bloqué, que ce soit au niveau de la maladie ou même quelqu'un de bien portant qui n'a absolument pas la trace même d'une fièvre, il peut être quand même bloqué, complètement bloqué, parce qu'il n'est pas dans ce mouvement vers la perfection. Il est une créature déchue qui va inexorablement vers la mort éternelle. Je reviens à ce qui s'est passé à l'entrée du temple, c'était encore un paralytique. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis la guérison de paralytique, car au-delà du paralytique, et c'est toujours cette projection à laquelle nous sommes invités, c'est-à-dire d'aller plus loin que le cas physique qui se présente. Nous l'avons vu au niveau d'Ésaïe 61, vous avez vu comment il faut voir loin. Eh bien, la paralysie, la vraie paralysie, c'est la paralysie d'un monde déchu, qui est bloqué dans son mouvement vers la perfection. Il ne pourra jamais l'atteindre s'il ne se passe pas quelque chose de fondamental. Et Jésus, avant d'accomplir l'essentiel par sa mort et sa résurrection, annonce, et c'est cela l'importance de son ministère sur terre, annonce que l'homme est promu à une condition supérieure, où il sera délivré cette paralysie d'être à côté du plan divin. Et pour accompagner ce message, il donne ses signes de paralytique physique qui sont guéris pour annoncer la guérison de la paralysie complète de l'être humain, corps, âme et esprit. Voilà la véritable portée du miracle. Eh bien, pour terminer notre méditation, il faut rappeler ceci. Nous revenons à ce texte d'Ésaïe 53:5. Je le rappelle, c'est parce que son cœur a été transpercé de chagrin qu'en ce qui nous conserve, tout a été remis en mouvement. Eh bien, je le disais tout à fait au début de notre méditation, que Jésus était bien plus qu'attristé. Il était absolument bouleversé par l'état de la condition humaine. Et toutes ces promesses, toute cette vue divine d'amener tout à la perfection, comment cela semblait partir en chaos, en fumée, en poussière, car tout retourne à la poussière. Et il savait que sa mission, c'était d'amener l'homme à un niveau de vie réel, la vie spirituelle, en mourant, en prenant d'abord sur lui cette condition humaine. Il va s'emparer de notre misère. Il s'empare de nos maladies, et en fait, je devrais dire de notre maladie. Car ne plus être dans le plan divin, c'est être malade. Ça pourra se traduire au niveau psychosomatique par des maladies au niveau physique. Il y a des gens qui vivent tellement dans un état hors du plan divin que ça finit par rejaillir sur leur santé. Mais ça ne veut pas dire que si leur santé reste correcte, ils ne sont pas en dehors du plan divin. On ne le répétera jamais assez. Eh bien, le Christ réalise à quel point l'homme est loin d'être dans le plan divin, à quel point il s'est fourvoyé. Il en découvre toute la misère, cette pauvreté, cette captivité, cet aveuglement que nous avons énuméré tout à l'heure. Il découvre cette misère. Il la fait sienne. Il entre dans cette misère. Quand il est dit qu'il porte nos maladies, il porte le résultat de la maladie, c'est-à-dire cet isolement par rapport à ce qui est divin, par rapport à ce qui est communion entre hommes. Il n'y a plus de communication possible dans l'état de chute. Il y a une communication au niveau de la parole, au niveau du chant peut-être, au niveau des arts, mais la vraie communication qui ne peut se faire qu'en Christ n'existe pas. Et cela amène l'homme à une misère réelle, qu'il se l'avoue ou non, car il est fait pour une communication réelle, une communion. Et tant qu'il ne l'a pas réalisé, il est malheureux. L'homme est malheureux, terriblement malheureux, il est dans la misère. Et la maladie physique peut être une expression de cette misère, car cette maladie va l'amener dans un état d'isolement, de tyrannie épouvantable. À la limite, dans certaines formes de maladie, il ira jusqu'à maudire Dieu, jusqu'à se rebeller contre Dieu. Voilà où amène la maladie l'homme. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous dire une chose qui peut-être a échappé à beaucoup d'entre nous. C'est que avant la chute de l'homme, la souffrance existait, et la mort aussi. Mais la mort n'était qu'une transition vers l'éternité, un sommeil, dira la langue hébreu. La souffrance, elle existe au niveau de l'être humain, car nous sommes en pleine gestation, notre corps grandit, il y a une tension au niveau cellulaire, à tous les niveaux de la biologie, et même en nous-mêmes, nous sommes créés avec des virus, des microbes. Pourquoi faire? Parce que leur présence crée en nous des anticorps par réaction, lesquels anticorps sont absolument essentiels lorsqu'il y a une agression extérieure de virus, de bactéries, de microbes. Car ces anticorps vont nous protéger. À un moment, on a cru qu'il fallait éliminer tous ces virus microbes internes. Eh bien, l'homme devenait la proie idéale de toutes les maladies du monde. On a quitté cette fausse voie dans les années 50 et 60. Ces microbes, virus sont essentiels, sont créés par Dieu, mais encore faut-il qu'ils soient dans un équilibre. Alors ce que la maladie amène, c'est un déséquilibre, c'est-à-dire, c'est plutôt l'inverse, c'est le déséquilibre qui amène la maladie. Lorsque nous n'avons plus d'anticorps ou suffisamment pour lutter, à ce moment-là, l'agresseur extérieur s'en donne à cœur joie, déstabilise notre organisme et nous sommes malades. Bon, quand nous sommes malades, le corps réagit, la fièvre, etc., il y a des moyens naturels. Eh bien, tout cela faisait partie de l'être humain, du contexte humain. Ce que la chute va amener, c'est de faire de cette maladie une tyrannie. Au lieu d'assumer sa souffrance, car la souffrance, Jacques le dit, c'est un test qui fait avancer l'homme. Au lieu d'assumer sa souffrance, l'homme est pris sous la chape, à une chape de plomb épouvantable, où il se sent isolé, où il ne voit plus le bout du tunnel, il ne voit que la mort, il est terrorisé, il écoute les voix de l'adversaire, il se recule, il se détourne du divin, c'est la tyrannie. La mort, pareil, après la chute, elle devient le lieu de passage d'où l'on ne revient plus pour une séparation éternelle avec Dieu. Tout cela, c'est ce qu'amène la chute. Ce qu'amène la croix et la résurrection, ce n'est pas la disparition de la souffrance ou de la mort, c'est la disparition de la tyrannie de la souffrance et de la tyrannie de la mort. Car après que Christ est ressuscité, l'homme, toujours étant proie à des agresseurs extérieurs au niveau du corps, il peut être malade. L'homme aussi va mourir. Lazare, qui a été ressuscité, est retourné en terre. Tôt ou tard, je ne me rappelle plus combien d'années après, l'histoire ne le dit pas. Sans cesse, l'histoire nous rappelle que la mort, la souffrance font partie de notre image. Mais dans le contexte de la nouvelle nature, nous sommes capables de l'assumer. Et Dieu peut, dans certains cas, manifester l'avènement de son royaume en donnant un signe quand il voit notre foi faiblie ou que le monde commence à nous écouter. Il donne un signe, une guérison miraculeuse se produit. Mais Dieu n'a pas amené la croix pour produire des guérisons miraculeuses à tout bout de champ à l'appel. Ce n'est pas du tout la vue qu'offre la parole. C'est pour ôter cette tyrannie. Et c'est cette tyrannie que Jésus a prise sur lui lorsqu'il est monté à la croix. Il n'avait pas le cancer sur lui, il n'avait pas la pneumonie, la tuberculose et toute autre forme de maladie. Il n'était pas malade, il avait un corps sain lorsqu'il est monté en croix. Mais ce qu'il a pris, il a pris des choses beaucoup plus graves. Il a pris la tyrannie qui entoure la maladie. Pour ceux qui ont été malades, vous savez de quoi je parle. De cet isolement épouvantable, de cette angoisse qui nous interpénètre, extraordinaire, qui nous détruit. C'est cela qu'il a pris. Et il a pris d'une façon telle que quand il a vu la misère de toute cette humanité qu'il aime, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, souffrir autant sous cette tyrannie, son cœur a éclaté. Ce ne sont pas les blessures des soldats romains qui l'ont tué, ce n'est pas l'homme qui l'a tué, c'est le Christ lui-même qui est mort d'un chagrin extraordinaire qui a fait éclater son cœur quand il a subi le poids de cette tyrannie. Voilà ce qui a fait mourir l'homme. Et le résultat, c'est qu'il est descendu, comme tout un chacun, dans ces lieux sombres. Mais, nous en parlerons samedi, mais parce qu'il était aussi fils de Dieu, il a vaincu la mort. Mais pour vaincre la mort, il a fallu qu'il meure. Donc, comme Hébreux le dit, chapitre 2, verset 17, c'est par la mort qu'il a vaincu la mort. C'est pas la résurrection qui a vaincu la mort. C'est la mort qui a vaincu la mort. N'ayant plus d'emprise sur lui, elle ne pouvait que le relâcher le troisième jour et il est sorti ressuscité du tombeau. Mais en ce faisant, il a fait bien plus que de nous annoncer ce par quoi nous passerions aussi un jour. Il a remis en mouvement toute cette marche vers la perfection. C'est-à-dire, il a enfin ouvert les portes, il a déchiré le voile et nous pouvons entrer dans cette vraie dimension de nous-mêmes que nous n'avions jamais pu atteindre auparavant, la dimension de spirituel qui est la seule éternelle. Et en entrant dans cela, nous sommes enfin en route vers la perfection à laquelle il nous appelle. Nous la découvrirons lorsque notre corps aussi passera par la mort pour passer par la résurrection. Notre chair, notre psychisme sont les derniers bastions. Et à ce moment-là seulement, nous entrerons pleinement dans l'éternité. Tout a été remis en mouvement parce qu'il a condescendu à prendre sur lui la tyrannie de la misère humaine. Voilà le terme profond de cet Ésaïe 53.5. Voilà ce qui se passe. Et la guérison, la croix, puissance de guérison, c'est tout cela. C'est la remise en mouvement. C'est ça la guérison. C'est que, enfin, je suis guéri corps, âme et esprit. Ou peut-être que j'entrerai dans cette vie régénérée avec une maladie. Mais nous le verrons, surtout samedi après-midi. Et peut-être lundi matin, que la maladie n'est pas forcément signe que Dieu ne s'intéresse pas à nous. La maladie n'est pas forcément quelque chose de raté. Et quand je dis maladie, je peux parler de beaucoup d'autres formes d'épreuves. Dieu permet l'épreuve, mais il n'ira pas jusqu'au point de rupture. Vous savez, Dieu fait ce que l'homme a découvert au niveau, Dieu le faisait bien avant, au niveau de la mécanique. Lorsqu'il y a des voitures de course qui tournent sur des anneaux, où on pousse le moteur, c'est pas seulement pour faire joujou, aller plus vite que l'autre. C'est qu'on essaye des nouveaux types de mécanique. Et on les pousse à l'extrême, mais on sait très bien qu'il ne faut pas pousser jusqu'à briser la mécanique. Quelquefois ça arrive, par erreur de calcul, ou parce que le conducteur était trop impétueux. Mais l'idée, c'est d'amener la mécanique à sa limite, et dire voilà, jusqu'où peut aller la mécanique, maintenant elle est viable. L'épreuve c'est ça, c'est le test. Le mot est utilisé dans la parole de Dieu. L'épreuve, le test. Eh bien, l'homme devient enfin capable d'assumer ce test sans se rebeller contre Dieu. Parce qu'en ce qui le concerne, il a été guéri au plus fondamental de son être de cette séparation d'avec Dieu. Car c'est cela la vraie maladie, d'être séparé d'avec Dieu. Et le plus grand miracle sera toujours une âme qui se tourne vers le Seigneur. Voilà le plus grand miracle. Et d'autres pourront suivre au niveau de son corps, si Dieu le veut, en tant que signe pour marquer l'époque. Le signe à l'époque, c'était des paralytiques qui revenaient parce que la paralysie était l'image physique du blocage de l'univers. Et des paralytiques qui se levaient et qui marchaient montraient par leur signe que Dieu remettait tout l'univers en mouvement. Voilà, voyez le sens profond de la guérison complète par la croix. Eh bien, sans cette guérison totale, nous ne pouvons pas entrer dans l'éternité. Voilà ce que la croix annonce. Voilà ce que je voulais dire à propos du Vendredi Saint. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais retenez cette dimension essentielle d'une guérison complète. Que Dieu nous aide. Prions, Seigneur. Seigneur, ton amour nous dépasse. L'œuvre de la croix, nous ne la comprendrons jamais, tout au moins sur cette terre. Mais tu nous offres beaucoup mieux que de la comprendre. Tu nous offres de la vivre. De la vivre par ce paradoxe de la mort. Seigneur, nous réalisons à quel point nous ne pouvons entrer dans la vie si nous ne mourons à nous-mêmes. Tu es mort pour nous. Tu as non seulement ôté nos péchés, mais tu nous as fait mourir avec toi, Seigneur. Et ce soir, nous voulons le confesser devant toi. Te dire, Seigneur, à quel point nous nous sommes crus forts alors que nous n'étions que faibles. À quel point nous nous sommes crus riches de toutes sortes de choses spirituelles alors que nous étions pauvres. À quel point nous nous sommes crus puissants alors que nous n'étions que faibles. Et Seigneur, nous voulons apporter tout cela au pied de la croix en ce Vendredi Saint. Jour qui nous rappelle que tu as déjà porté tout cela sur la croix, que tout a été accompli une fois pour toutes. Et Seigneur, notre cœur se réjouit ce soir parce que tu as tout accompli. Nous n'avons plus à nous charger de fardeaux inutiles. Que si nous passons par la souffrance, la maladie, tu en es le seul dispensateur. Et Seigneur, quelquefois nous n'en pouvons comprendre le mystère, mais tu nous donnes la puissance d'assumer cet état, jusqu'au jour où tu vas nous en délivrer, quand bon te semble et ton temps est le meilleur. Seigneur, donne-nous de ne regarder qu'à toi, d'éviter le regard de l'autre, de celui qui a terrorisé nos âmes dans cette tyrannie jusqu'à là, et qui veut encore nous dire que rien n'est fini, que la croix n'est qu'un petit tournant dans l'histoire. Mais non, Seigneur, nous refusons cette voie. Nous tournons le dos à notre passé. Nous tournons le dos à tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous tournons le dos à notre image de nous-mêmes ce soir et nous tournons nos regards vers toi. Nous voulons te contempler sur cette croix, Seigneur, sachant que tu as porté la tyrannie de ce qui nous a assaillis et que maintenant nous sommes guéris, complètement guéris, parce que ton cœur a été brisé, a éclaté de chagrin devant notre misère. Oui, Seigneur, nous entrons dans cette vie nouvelle ce soir. Aide-nous à faire les pas qu'il faut, grands ou petits, quelle que soit la vitesse que tu nous donnes pour avancer dans cette marche vers la perfection, nous te glorifions ce soir. Nous louons ton nom parce que tu es le plus grand de tous les noms. C'est par le seul nom de Jésus, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.